Radio PFM, toujours en direct et en public depuis le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras. Il est 17h, passé de 10 minutes. C'est une table ronde que nous vous proposons en partenariat avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, et en particulier avec Hervé Delouche, son président. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Le titre de cette table ronde est quelque peu ronflant, le roman noir, objet littéraire, enjeu politique. Il nous a été inspiré par le livre, pas du tout ronflant, je vous rassure, de suite, de Philippe Courcuf, Polar, philosophie et critique sociale. Pour parler de ce livre, son auteur, bien entendu, est avec nous, et aussi deux écrivains, deux jeunes écrivains qui ont publié en 2014 deux objets littéraires qui ont à voir avec roman noir et enjeu politique, François Medellin et Nicolas Mathieu. Mais avant de nous lancer dans la discussion sur ce thème, sur cette thématique, un mot, Hervé, pour évoquer la mémoire de deux auteurs de noir qui auraient pu être avec nous aussi aujourd'hui.
Oui, c'est pour évoquer, pour faire un petit salut à deux auteurs qui ont disparu dans les derniers mois et qui auraient pu tout à fait discuter de cette thématique, qui étaient tous les deux, chacun à sa manière, très politique. L'un, c'est Jean-François Villard, qui, après avoir été un militant politique trotskiste, a été l'auteur dans les années 80 et début 90 de romans extrêmement forts, comme Les Exagérés ou bien son dernier, Nous cheminons entourés de fantômes au front troué, qui était une espèce de mise en relation entre le passé de la Révolution française, le passé de la dictature argentine pour Bastille Tango, le passé des militants d'opposition assassinés par les staliniens à Paris dans les années 37-38. Et d'un autre côté, c'est Afed Ben Othman, qui est mort à la cinquantaine, 50 années dont 17 avaient été passées derrière les barreaux. Et Afed Ben Othman, qui dans des romans ou des nouvelles comme Les Poteaux de Torture, comme Les Forcenés, comme Marche de Nuit sans Lune, avec une poésie absolument fulgurante, évoquait le côté tragique de l'univers carcéral sans jamais tomber dans un pathos misérabiliste. Tous les deux, ça a été des hommes... on peut dire des hommes qui, chacun à sa manière, ne pliaient pas, des hommes en résistance. Voilà, donc salut à eux.
Alors, Philippe Courcuf, bonjour.
Bonjour.
François Medellin, bonjour. Nicolas
bonjour.
Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Voilà, ça permet de chauffer les micros, de se réchauffer un petit peu. Il fait quand même moins froid que ce matin. Roman noir, objet littéraire, enjeu politique, mais aussi, Hervé, enjeu commercial, puisque c'est un genre littéraire qui tourne à plein régime. Et c'est ce qui peut amener des sociologues, par exemple, des chercheurs en sciences sociales, à se pencher sur ce phénomène. On reviendra peut-être sur ce mot, peut-être est-il quand même un peu fort, sur ce phénomène de société.
Bah oui, on l'a évoqué tout à l'heure pour ceux qui étaient à un débat à 14h30 qui était autour de la série noire. Aujourd'hui, un livre sur quatre vendu, grosso modo, pas un roman sur quatre, un livre sur quatre, et ce qu'on appelle du terme générique est en France un polar, par rapport à une littérature qui était marginale et qui était même largement méprisée à la fin des années 70, début 80, par exemple. Il y a eu évidemment un retournement de situation. On peut dire qu'il y a un énorme engouement, que le polar a envahi les étals des librairies, que par ailleurs... Il a envahi le monde, mais le monde l'a envahi aussi, puisque sur tous les coins de la planète, il y a des auteurs qui écrivent des polars, des romans noirs. Il y a peu d'exceptions. Et moi, je voudrais demander à Philippe Courcuf, qu'est-ce qui a amené un sociologue comme lui, féru de critique sociale, à se pencher sur ce genre littéraire depuis longtemps ?
Bon, d'abord, j'étais un amateur de romans noirs, et à partir de cette passion privée, j'en ai fait peu à peu un objet d'intérêt de recherche. Et mon livre est venu un peu après celui d'un sociologue qui a été mon maître en sociologie, qui est Luc Boltanski. Un livre qui est paru il y a 3-4 ans, Énigmes et complots, qui est une analyse de l'origine du genre roman policier originel et du roman d'espionnage. Tout ça pour analyser les rapports entre le capitalisme et l'État. C'est un gros livre très intéressant, très savant, publié chez Gallimard. Et la thèse de Boltanski, c'est que le roman policier originel intervient parce que il y a un trouble, une faille dans le rapport au capitalisme. Il y a un problème à résoudre et le genre roman policier le fait intervenir à travers, disons, l'énigme. Bon. Le problème du genre roman policier originel qui prend à travers deux figures, la figure anglaise avec Conan Doyle et Sherlock Holmes et la figure française avec Maigret de Simenon, c'est qu'à la fin, l'énigme peut se résoudre et donc l'ordre social peut être rétabli sous l'égide de l'État-nation. Bon. Le roman d'espionnage qui naît à peu près à la même époque va dans d'autres directions et c'est la faille est travaillée autour des théories du complot qui sont devenues d'ailleurs une maladie assez ordinaire, bon, et qui contamine d'ailleurs aujourd'hui malheureusement un peu le polar aussi. Mais j'ai voulu poursuivre parce que la particularité du roman noir américain qui après a essaimé ailleurs dans des cadres nationaux différents, mais celui qui naît dans les années 1920, c'est que la faille ne peut pas être résorbée puisque le désordre du capitalisme est structurel, la violence, l'oppression, l'injustice. Donc on ne peut pas rétablir l'ordre à la fin, on ne peut pas fermer la faille, et d'autant plus pas à l'intérieur de l'État-nation que l'État-nation lui-même est gangréné par la corruption, justice, police, politiciens, etc. Bon. Et donc, c'est ce qui donne une portée radicale, à la fois anticapitaliste et anarchiste, anti-étatiste, au roman noir des gens comme Mamet et Chandler, même indépendamment de leur positionnement politique propre. C'est-à-dire que c'est la politique portée par l'esthétique du roman noir, c'est pas la politique des auteurs ou les thèmes politiques des romans, voilà, qui donne une sorte de radicalité politique à la fois anticapitaliste et anti-étatiste au roman noir au départ. Voilà. Et cette radicalité, c'est ça qui m'a intéressé en tant que sociologue. À un moment donné, de relance d'une certaine critique sociale radicale aujourd'hui, qui essaye de se reformuler. Et là, dans le roman noir, il y a une matière particulière à partir d'un genre littéraire particulier. En fait, le lien objet littéraire à enjeu politique, c'est très lié dans le roman noir, à mon avis.
Oui, alors, donc, justement... dans votre livre, il y a cet aspect, comment nous aider à mieux comprendre ce que nous dit le roman noir, on va dire ça, dans ce registre propre. Mais quelque part, il y a aussi, vous interrogez, vous explorez même la façon dont le roman noir alimente aussi, à sa façon, les travaux de sociologie, de philosophie et de critique sociale.
C'est-à-dire que... Il y a tout un courant aujourd'hui dans les sciences sociales et dans la philosophie qui s'intéresse à ce que moi j'appelle les cultures ordinaires, plutôt que cultures populaires. C'est-à-dire que c'est des référents culturels qui circulent dans la vie ordinaire, qui peuvent circuler dans les milieux populaires comme dans d'autres milieux sociaux, mais qui circulent dans le travail, en dehors du travail, entre les amis, aujourd'hui sur Internet, Facebook, etc., en fait, qui circule dans les sociabilités ordinaires. Aujourd'hui, sans doute, dans les jeunes générations, ce qui circule le plus, c'est les séries télévisées. Et dont une partie de ces séries télévisées, c'est des séries noires. Hein. C'est une adaptation, à ce genre série des éléments du roman noir. Bon. Et donc, cet intérêt pour les cultures ordinaires... fait que le roman noir est un lieu justement d'initiation politique et morale. Parce que à travers le roman noir, on n'a pas un moralisme ou une dimension moralisatrice, mais on a une éthique, c'est-à-dire on a une quête de repères confrontée au réel, face à la violence, face au mal, face à la décomposition du monde social et politique. Et donc c'est comme une initiation sur comment retrouver des repères, comment être confronté au mal, comment tomber dans le mal, comment tomber dans le nihilisme, y revenir, etc. Et donc on a une vraie éducation morale et politique en acte dans le roman noir, pas sous la forme d'imposition de normes morales, mais dans la confrontation entre des repères moraux et des situations qui ont un degré de réalisme.
Et Philippe Corcuff, quand on parle d'enjeux politiques, est-ce que l'on peut dire que le roman noir alimente le politique en général, l'engagement politique? En quoi il peut intervenir sur la vie politique?
Alors, il y a deux choses. Je pense que le bon roman noir peut nourrir, disons, les repères éthiques et politiques, donner une certaine radicalité. Et puis, il y a le mauvais roman noir. Alors, ce qu'on appelle la queue de comète de ce qu'on appelait le néopolar à partir des années 70, mais dont la comète se situe, disons, à la fin des années 90, où là, il y avait une sorte de politisation explicite, pas dans le style du roman noir, mais dans un contenu, en fait, politique stéréotypé, du type avec des personnages, avec des patrons qui étaient pédophiles au Front National et qui étaient truands en même temps. Bon, voilà, c'était le type même de ça. Là, c'était une dégradation politique du roman noir, à mon avis, qui flattait les stéréotypes gauchistes nés de 68 d'une série de lecteurs. Bon. Mais le bon roman noir, lui, il va justement travailler au cœur des doutes et des incertitudes de nos contemporains face à la politique et à la morale. Et donc, on n'est plus dans l'imposition de normes, mais on est dans la quête de boussole. Une boussole, ça ne vous dit pas où il faut aller, ça vous indique le nord et le sud, c'est-à-dire des éléments d'orientation. Bon. Et donc, on n'est plus du tout dans une morale normative, on n'est plus dans une politique normative, on est plutôt dans une quête. Alors là, le roman noir a beaucoup nous apporté, d'autant plus que nos sociétés, c'est un de mes thèmes de prédilection dans la partie la plus sociologique de mon travail, qui est l'individualisme contemporain. Dans nos sociétés individualistes, le roman noir a d'autant plus à apporter que on a souvent les héros sous la forme du détective ou du flic marginal, qui sont des héros plutôt solitaires, et on a une éthique très personnalisée. Bon, hein. On n'a pas de l'action collective dans le roman noir en général, hein. On a une éthique très personnalisée. Et donc, dans le cadre de nos sociétés individualistes, il y a une demande pour forger ces éthiques individuelles propres. Et le roman noir peut servir, comme le film noir, comme les séries télé noires, peut servir de support ou de matériau pour que chacun constitue sa propre boussole.
Justement, Philippe Corcuff parlait de boussole. À propos de « Aux animaux la guerre » de Nicolas Mathieu, le livre que tu as publié l'an dernier, on peut dire que c'est une des originalités qui dit boussole, dit carte aussi, peut aller dans ça. C'est un roman qui, d'un côté, met en scène des personnages qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans le polar, dans le roman noir, une inspectrice du travail, un syndicaliste, mais qui ne ressemble absolument pas au syndicaliste du post-néopolar idéologique que pourfendait un peu Philippe Corcuff, et à juste titre, c'est-à-dire un syndicaliste pour le moins paradoxal, pour le moins ambigu, pour le moins porteur de doutes. Et voilà, ce roman, Aux animaux la guerre, il offre une cartographie assez terrifiante des Vosges aujourd'hui, de la région sinistrée que les Vosges sont devenues. Le roman est dense et très réussi, mais je ne vais évidemment pas vous le résumer. Nicolas Mathieu, je voulais te dans une interview que tu as donnée à 813, je ne crois pas me tromper, je vais te citer, je pense qu'il s'agit du choix du roman noir, un peu à la suite du choix que faisait Manchette d'écrire du roman noir. On te demandait, peut-être n'est-ce pas une démarche délibérée, et tu dis, ah si, Je l'ai fait en connaissance de cause, en employant certains codes. En fait, après avoir assisté à pas mal de plans sociaux dans des entreprises, j'ai eu envie de raconter cette histoire sur le peuple en employant un genre populaire. Voilà, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce choix, peut-être un peu sur cette histoire populaire ?
Ouais, moi je suis vachement attaché à quelque chose, c'est une idée qui me vient plus du cinéma d'ailleurs, c'est se dire, faire des objets mainstream, accessibles à tous, de divertissement, a priori, et en contrebande, là-dedans, faire passer un peu de critique sociale, un peu de sociaux, un peu d'histoire, un peu... peut-être de morale ou de leçons de vie, des choses comme ça, mais pas en assénant, en restituant un monde qui, et en donnant à penser aux gens. Et le roman noir, c'est un super véhicule pour ça, parce qu'on accroche les gens, on les hameçonne vraiment avec, avec une intrigue criminelle, avec des poursuites en bagnole, avec, vous savez, c'est comme ce que disait Godard sur le cinéma, un flingue et une fille, quoi, des choses très basiques comme ça et qu'on aime tous. Et puis, il y a une petite musique en sourdine derrière tout ça qui parle de l'état du monde et de comment éventuellement y nuire. Voilà. Donc, c'est le polar, c'est effectivement donner du grain à moudre au plus grand nombre.
2014 rimera avec le mot « guerre » pour le roman noir français. Hervé Lecoeur nous a donné « Après la guerre », Nicolas Mathieu « Aux animaux la guerre », on vient d'en parler. Et il y a aussi « Les rêves de guerre » de François Médélin. Les trois romans sont sortis d'ailleurs à peu près au même moment. Alors François Médélin, lui, a fait irruption. Le mot est à prendre dans toute sa mesure. Hein. Il y a environ 2 ans dans le roman noir français avec le très politiquement incorrect, déjà, j'ai envie de dire, la politique du tumulte. Et là, l'affichage politique apparaît dès le titre. Et son deuxième roman, donc les rêves de guerre, est à sa manière encore plus politiquement incorrect. Et peut-être cela par rapport au genre même hein, dont il se revendique le roman noir. Alors François Médélin... Bon, c'est un livre qui ne peut pas vraiment se résumer. Peut-être que l'auteur s'en chargera. En tout cas, moi, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est est-ce qu'il y a une volonté avec ce roman de faire douter le lecteur et le doute dont a parlé, bien entendu, Philippe Corcuff ?
Quand j'écris, en fait, moi, ma posture... La chose la plus importante, on va dire, objet littéraire en jeu politique, c'est je suis très attaché en fait à la charge critique portée par l'objet livre que je suis en train d'écrire. Donc la charge critique par rapport au monde, par rapport au réel, et puis la charge critique par rapport au champ artistique entre guillemets dans lequel j'évolue. Et je pense qu'en fait que cette posture je ne suis pas un pro du néopolar, mais justement, le fait qu'il n'y a plus d'enjeu politique si on n'a pas cette posture esthétique, ce rapport esthétique, en fait, au réel. Donc moi, quand j'ai écrit Les rêves de guerre, je ne pense vraiment pas, moi, au lecteur, en fait, quand j'écris. Et donc, je ne veux pas insinuer le doute. Après, c'est lors de la réception, a priori, que ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que dans ce rapport esthétique, donc là, au phénomène concentrationnaire, hein, puisque c'est ça l'objet du bouquin, ça m'a permis en fait justement de douter en fait de la sacralité de l'objet que j'étudiais. Et je pense que le roman noir, la posture esthétique à un objet sacré. Voilà, elle permet justement de désacraliser, de réinterroger et de mettre le doute et de se dire finalement c'est pas forcément aussi barbare en fait ce qui s'est passé. Parce que c'était cette interrogation moi que j'avais depuis tout gosse en fait. Quand j'avais 8-9 ans, je me souviens, je faisais des croix gammées sur les tables. Je savais pas pourquoi en fait. Et il y a des gosses en fait qui font ça, j'en connais, font des croix gammées. Et je me suis dit mais... Est-ce que c'est vraiment aussi barbare que ce qu'on nous raconte en fait ? Est-ce que c'est la barbarie ou est-ce que c'est juste notre civilisation occidentale qui a conduit à l'industrialisation de la mort quoi ? Et donc c'est vrai que je pense que ça doit être déstabilisant, en tout cas c'était déstabilisant à écrire.
parce qu'en fait, c'était trouvé l'humanité en fait des survivants, l'humanité réelle, vraie, quoi, je dirais. Parce qu'on va quand même à la recherche d'une forme de vérité par le beau, par l'esthétique, quoi. C'est comme ça que j'envisage, en tout cas, ma façon d'écrire.
Moi, je voudrais vous parler, enfin, vous faire parler du poids d'un passé qui ne passe pas forcément vraiment, mais qui peut-être est clair. De même qu'il ne s'agit évidemment pas, vos polars sont par bonheur tout sauf des polars historiques, dans ce que on compartimente ainsi dans les librairies. Mais voilà, de même que par exemple, on sait qu'une partie de l'œuvre de James Ellroy se plonge dans le passé et nous a donné un regard nouveau sur l'Amérique, de même que Denis Lehane a écrit des livres très contemporains comme Mystic River, mais aussi Un pays à l'aube, disons vers 1917 aux États-Unis, ou Shutter Island dans une époque plus proche. Voilà, il se trouve qu'il y a un parallèle entre vous deux. C'est que, si je ne m'abuse, les premières pages du dernier livre de François Médéline et de Nicolas Mathieu commencent pour toi, on est à Oran en 1961, voilà, dans une Algérie qui est encore française, et avec des exactions de l'OAS, enfin des actions de l'OAS en tout cas. Et toi, François Médéline, ça commence en 1944, Mauthausen, si je ne m'abuse. Pourquoi commencer vos romans comme ça, et est-ce que c'est éclairant? Est-ce que ça donne du sens?
Pourquoi commencer le roman comme ça, et est-ce que c'est éclairant? Non, moi je crois pas. Je crois que les premières pages, elles sont plutôt obscures. Mais en fait, moi ce que j'ai fait, en fait, c'est un avertissement, en fait. Mais je m'en suis rendu compte après. J'ai fait une barrière littéraire, en fait. J'ai fait quatre premières pages, en fait, parce qu'il y a une mise en abîme dans le bouquin. Donc j'ai fait quatre premières pages, c'est le livre dans le livre, en fait. C'est pour que les gens comprennent, je suppose, ou enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de le faire, que ça va revenir, en fait. Tout ça va revenir. Et donc, en fait, moi, j'ai un personnage de flic qui est prisonnier, en fait, d'un passé qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est plus un antipolar qu'un polar. Je l'ai construit volontairement comme ça. L'intrigue policière, en fait, au fur et à mesure criminelle, on s'en fout. Et puis, c'est quelqu'un, en fait, qui va à la recherche de son destin familial. Donc, et il est prisonnier, en fait, de ce passé. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment commencé là-dessus. Donc, c'est la vie de sa famille, en fait, les quatre premières pages dans un livre dans le livre. Et en fait, j'ai essayé de bricoler après, parce que l'écriture, c'est de l'inspiration et de la bricole, des fois. Et j'ai essayé aussi de jouer sur, notamment par rapport au temps du récit. En fait, lui, tout ce qu'il est en train de vivre est au passé. Et tous ses souvenirs, en fait, tout le passé est au présent dans le bouquin. Et ouais, ce poids, en fait... sur sa psychologie, en fait, est assez important et l'emprisonne. Et bon, voilà, il va essayer au fur et à mesure du roman de s'émanciper sans y arriver.
Mathieu. Ça commence à Oran 61. J'avais envie de tirer un fil. En fait, le bouquin, il parle de quoi? De la fin d'un monde, la fin de la classe ouvrière, voilà. C'est quand j'ai assisté à ces plans sociaux dans les usines, c'est vraiment ce que je voyais. C'est une classe en train de se casser la gueule en tant que telle, quoi. Et ça se traduit politiquement par le fait que, notamment le vote FN. Voilà. C'est un des phénomènes dont on ne parle jamais dans le bouquin, mais qu'on sent confusément, c'est tout le temps là, et c'est un bruit de fond. Et j'avais aussi envie de tirer une généalogie entre ce phénomène politique-là et puis ce qui s'est passé en Algérie et qui n'est pas digéré et qui continue à produire, c'est comme une dalle de colère sur laquelle il y a plein de choses qui ont fleuri et qui continuent à infuser toute la société. Et puis la crise ou l'Algérie ou l'occupation, c'est des périodes intéressantes parce que c'est des points de fusion, comme disait François, vous parlait tout à l'heure, où en fait des braves types peuvent devenir de parfaits salauds, et inversement des gens ordinaires devenir des héros, et c'est ça qui est intéressant. ça, c'est des périodes de troubles, d'ambiguïté et de, comment dire, de climax dramaturgique où on voit bien que la ligne de partage entre les bons et les méchants, elle passe pas entre les gens, elle passe à travers eux, et selon les circonstances on peut basculer d'un côté et de l'autre. Et moi j'adore les films de guerre, et je trouve que ce qu'il y a toujours d'intéressant dans les films de guerre, c'est que le feu ça agit comme un révélateur, ça produit de la vérité sur les êtres. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans le fait de revenir sur la guerre d'Algérie.
Alors Philippe Corcu, vous avez à vos côtés, vous êtes entre les deux auteurs de romans noirs qui viennent de nous expliquer justement comment ils construisent ces romans, comment ils inscrivent leur travail littéraire dans leur projet, qui n'est pas forcément un projet avec des intentions politiques, on les a entendus. Il y a aussi des intentions esthétiques, hein, comme l'a dit François Medellin. D'ailleurs, ça peut aussi questionner quel plaisir à lire du roman noir, du roman social, du roman politique, hein, du point de vue divertissement, comment réussir à combiner les deux. Donc, en tant que sociologue, que chercheur en sciences sociales, que retenez-vous ces propos de deux auteurs de romans noirs qui nous décortiquent leur manière de travailler?
Il me semble que d'abord, il y a cet objet roman noir, c'est-à-dire que c'est... au départ, c'est quelque chose qui s'invente au hasard. Enfin, ça n'existe pas. Donc, c'est après coup. Après, Hamlet, Chandler, mais beaucoup de gens en fait qu'on connaît plus même, que quelque chose se constitue, qu'on constitue comme un genre particulier qui a émergé. Bon, donc déjà il y a c'est le résultat d'un tâtonnement, de hasard, d'hybridation, le point de départ. Et c'est après qu'on constitue le genre comme ayant des éléments communs. Bon. Et puis après ce genre, il va connaître des hybridations en intervenant dans différents contextes générationnels et, disons, nationaux, culturels différents. Et donc, évidemment, le roman noir en France, dans les pays nordiques, au Mexique, etc., c'est pas exactement la même chose. Ça vient percuter. En même temps, on retrouve des éléments communs. Donc, il y a ces éléments d'hybridation. Et puis, il y a des éléments générationnels, mais y compris dans le roman noir américain. Hamlet, Chandler, etc. Après, Goodis, c'est pas pareil. Et Lien... et les autres, c'est pas pareil non plus. Bon, donc il y a cette créativité personnelle à partir d'éléments communs qu'on appelle un genre, mais qui le reconstruisent constamment en même temps. Donc ça, c'est l'élément important. C'est d'abord pour ce qu'on appelle roman noir, c'est-à-dire que c'est quelque chose en évolution, qui est toujours en construction avec des éléments, quelques éléments transversaux qui sont reconfigurés. Après, il y a le problème de l'intention dans l'acte créateur. Et donc, les travaux de sociologie de l'art n'insistent pas tant que ça sur les intentions. Parce que ni les bonnes intentions, ni les mauvaises intentions ne font des objets culturels artistiques intéressants, en fait. Hein. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec ce qu'on a appelé la queue comète du néopolar. Bon. Et donc là, le problème, ce n'est pas l'intention politique, c'est comment on travaille entre une subjectivité, des éléments d'un genre, parce qu'on s'inscrit dans un genre, donc on en retire certains codes, ou on les déplace, etc. Et puis on se confronte à des bouts de réalité. Bon, hein. Et c'est là que surgit des éléments politiques. Et à mon avis, si on veut faire de la politique, si la politique est explicite comme volonté de faire passer un message dès le départ, à mon avis, ça trouble cette alchimie. Et donc, ça a moins de chances de donner une confrontation singulière avec le réel qui va justement aiguiser cette portée politique. Après, je pense, c'est comme le cinéma. C'est que pour des grands réalisateurs de cinéma, la culture cinéphilique est importante pour faire autre chose d'une certaine façon. Hein. Je pense, un des grands cinéastes des années 80 comme Michael Mann, qui continue d'ailleurs à faire des films. Bon. À la fois, disons, d'une certaine façon, comme il a été dit tout à l'heure, grand public et en même temps un grand cinéaste qui a en fait a une sorte d'alchimie dans le traitement de l'espace. C'est le propre de Michael Mann, c'est de faire de l'espace une catégorie éthique. Donc ça, c'est la grande force de Michael Mann. Bon. Mais ça suppose d'avoir ingurgité, d'avoir retravaillé des éléments antérieurs. Bon, je pense que c'est important pour la littérature, etc. aussi. C'est-à-dire, c'est avoir une connaissance critique du passé, du genre, de l'espace artistique dans lequel on se situe. Ça aide à ce processus de création, ne serait-ce que parce que si c'est bien fait, ça ne vise pas à refaire justement les mêmes choses. Alors, certains peuvent en tirer l'idée de refaire les mêmes choses, mais il ne s'agit pas de refaire les mêmes choses, et donc il s'agit bien de créer quelque chose de nouveau, donc des éclairages nouveaux sur des bouts de réel qui vont continuer l'aventure de ce genre. Bon. Et donc ce qui a été dit sur le processus artistique là, c'est ça qui se passe. Et donc c'est pas l'obsession de faire passer un message, c'est pas l'obsession de dire un élément, etc. C'est de se confronter, voilà, à des éléments de réel avec ce passé, cette culture, cette tradition critique. Bon.
Mais en même temps, on n'écrit pas un roman noir spontanément.
Moi, juste voulais revenir sur quelque chose qui a été dit là, parce qu'il y a un mot qui revient sans cesse et sur lequel on ne s'arrête pas, le mot réel. Et je crois que le roman noir, il est politique dans son intention de base, parce qu'il décide de scoltiner le réel. Et que beaucoup d'objets culturels, artistiques, médiatiques, essayent sans cesse de mettre des barrières entre nous et le réel, et de l'occulter. Et le roman noir, il fait exactement l'inverse. Il dit, prenez tout le réel dans la tête, quoi. C'est comme ça, il faut tout prendre, il faut tout voir, quitte à se faire mal, il faut le vouloir intégralement. Et en cela, choisir le roman noir, c'est déjà politique à la base, quoi. Parce que c'est faire la nique à la grande entreprise de décervellement et de comment dire, de mise à distance de ce qui est.
Alors, le débat reste ouvert. Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter puisqu'il y a des trains pour les auteurs. Deux d'entre eux nous quittent dans 5-10 minutes. Le débat, vous pourrez la réflexion la poursuivre en lisant peut-être en alternance donc le livre de Philippe Corcuff, Polar, philosophie et critique sociale, et puis les deux romans noirs, les lectures s'éclairant les unes les autres, donc le roman noir de Nicolas Mathieu aux Animaux la guerre aux éditions Actes Sud, et le roman de François Médéline, Les rêves de guerre aux éditions La Manufacture de livres. Une dernière question, Philippe Corcuff, quand même. Votre livre, il est illustré par des dessins de Charb, un mot.
Oui, Charb, moi j'ai travaillé à Charlie Hebdo entre 2000 et 2004 et j'ai quitté pour des raisons de divergence avec Philippe Val à l'époque que Charlie Hebdo, mais j'étais resté très ami avec Charb. Et donc, quelques mois après d'ailleurs avoir quitté Charlie Hebdo, on a ouvert sur un site lyonnais alternatif, Le Zèbre, une chronique irrégulière sur le roman noir, où lui faisait le dessin et moi les textes. Et donc là, jusqu'à sa mort d'ailleurs, on était en train de préparer un prochain texte et dessin, voilà. Donc c'est, voilà, c'est ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est justement, ça peut être éclairé par le roman noir, parce que on est quand même dans une phase de brouillage des repères, de violence, la violence qui s'est passée contre Charlie Hebdo, les crimes antisémites, mais la récupération politicienne et étatiste aujourd'hui qui vise à limiter les libertés publiques, tout ça nous entraîne dans un paysage qui est plutôt celui du roman noir, et les temps qui viennent, mon dernier livre, c'est un livre qui s'appelle « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard ». Les années qui sont là et qui viennent sont plutôt des années qui donnent une plus grande actualité encore au roman noir, malheureusement, d'une certaine façon.
Voilà, merci à vous. Bon retour dans les Vosges, sur Paris, sur Lyon. Hervé, merci beaucoup. Merci à 813.
Merci à nos invités. Voilà.